Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bonjour, ou plutôt bonne année, hein, puisqu'on est la première émission de l'année 2002 que l'on visualise ce matin. Alors, cette qualité de l'air, il s'est passé beaucoup de choses, on le sait, l'année dernière et l'année d'avant ont été marquées par du confinement. Le confinement, ça amène quoi ? Ça, on ne va pas parler des problèmes de la Covid, mais ce confinement, en fait, il amène des problématiques à l'intérieur de nos logements et des problématiques de renouvellement de l'air, de la qualité de notre air et peut-être aussi d'accumulation de polluants qu'il faut savoir évacuer. Mais par contre, pour savoir ce qu'il faut évacuer, de quelle manière, à quel moment, il faut les qualifier et il faut les connaître. Et ça passe par le travail d'une entité qu'on connaît très bien ici à Élémentaire, qui est l'OQAI, hein, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui a 20 ans, qui a fêté ses 20 ans il y a quelques courtes semaines. Et pour parler justement de l'OQAI, de ses sujets, de ses axes, de son travail passé qui va amener à son travail aussi futur et nous faire progresser sur cette amélioration de la qualité de l'air, je reçois Corinne Mandin. Bonjour Corinne, bonne année à vous.
Bonjour Nicolas, très bonne année à vous également.
Voilà, respirons bien, respirons en grand, hein. On peut se souhaiter que le meilleur sur ce plan-là. L'essentiel, notre essentiel est notre air et notre qualité de l'air. Alors Corinne, juste pour vous présenter, vous êtes ingénieure chimiste, vous avez un doctorat en biologie et sciences de la santé, et également vous êtes la coordinatrice de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur pour le CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment. Dites-nous un petit peu, et bon anniversaire pour ces 20 ans de la OQAI. Hein, j'ai eu l'occasion de les souhaiter aussi à André Bussmann, qui en est la présidente. André, je suis sûr qu'elle nous regarde, donc un coucou pour une bonne année pour toi aussi. Et justement, cette OQAI, c'est quoi ? Quelles sont ses missions et quelle est-elle ?
Alors, merci Nicolas encore pour cette invitation, pour cette première émission de l'année. Donc l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, c'est un programme de recherche qui a été mis en place en 2001 à l'initiative de trois ministères, les ministères de l'écologie, de la santé et du logement, et l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. L'ANSES a rejoint l'Observatoire un peu plus tard parce qu'elle n'existait pas encore en 2001. Donc ce programme de recherche vise à documenter les expositions de la population dans les lieux de vie, donc les logements, les écoles, les bureaux, les piscines, les cinémas, tous les lieux de vie. On ne travaille pas sur l'environnement, les infrastructures de transport, donc on ne va pas dans le métro ou dans les voitures qui présentent aussi des pollutions spécifiques. On n'est pas du tout dans le domaine de l'hygiène professionnelle.
D'accord. Est-ce que justement ces transports, parce que quand on parle de la qualité de l'air intérieur, on pense automatiquement à transport, est-ce que ce sera un sujet ou quelque chose qui va intéresser l'OQAI pour regarder ce qui s'y passe, hein. Quand on pense transport, on pense automatiquement à nos trains, à nos avions. Est-ce que ce sera quelque chose dans l'avenir qu'on entendra parler par l'OQAI ?
Oui, possiblement. C'est vrai que jusqu'à présent, alors on existe depuis 20 ans, on les a fêtés en décembre dernier, mais donc on s'est intéressé aux lieux les plus fréquentés, les logements, les écoles où passent beaucoup de temps les enfants, les crèches, les bureaux où les travailleurs passent aussi du temps. On a été moins dans des lieux où on passait moins de temps, donc on n'a pas encore exploré les infrastructures de transport, mais on peut imaginer qu'à l'avenir, dans les prochaines années, l'OQAI s'intéresse toujours à ces lieux prioritaires, mais également au métro, pourquoi pas, au train, aux avions, absolument.
Donc, pour notre qualité de l'air, on a du travail pour les années à venir.
Il y a déjà des choses qui se font dans le domaine. Hein, l'Agence de sécurité sanitaire travaille sur les infrastructures de transport souterraine. Il y a déjà des choses qui se font, mais on pourrait imaginer de documenter plus largement les pollutions dans ces espaces.
Alors, juste pour faire un parallèle, moi, dernièrement, j'ai pris le train et j'étais extrêmement surpris, mais très agréablement surpris, de rencontrer un contrôleur dans ce train qui connaissait la qualité de l'air sur le bout des doigts et qui m'a parlé de la manière dont elle se faisait dans les trains. Alors, je trouvais ça très bien, il était très au fait. Par contre, il y a des petites choses qui sont encore à améliorer et auxquelles il faut faire attention, hein, notamment, on parlait des taux de CO2 dans le train, hein, on est parti par millions, qu'on discutait avec Fabien Skinadi à l'émission précédente, et notamment, il se réfère à celle liée au travail qui est à 5000 en seuil, alors que pour être bien, on sait qu'on devrait être à 800 ou 1000, évidemment, ce qu'on recherche dans nos logements. Donc là, il y a encore tout un tas d'éléments à à suivre. Alors, pour l'OQAI, revenons-y, et bien évidemment, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Quels ont été les axes? Justement, vous parliez de campagnes de mesures, de travaux qui ont été posés. On sait que le logement est déterminant pour notre santé. Vous parliez des bureaux, vous parliez de l'éducation. Alors, je crois que le premier chantier qui a été mis en place, ça a été les logements.
Absolument, c'est la première campagne nationale que nous avons menée entre 2003 et 2005, donc avec un tirage au sort dans le parc des logements français en métropole, un tirage au sort dans le fichier des impôts. Donc le fait de tirer au sort, ça nous permet d'avoir un échantillon représentatif du parc, on ne travaille pas sur la base du volontariat. Et dans ces 567 logements, on est allé faire des mesures pendant une semaine. Donc des prélèvements d'air dans la chambre, parce qu'on passe beaucoup de temps, on y dort, mais également dans le salon, c'est un lieu de vie qui peut être impacté par tout ce qu'on fait comme activité de loisir, la cuisine également. Et puis toujours des mesures extérieures que l'on fait en référence. Donc pendant une semaine, on installe tous ces dispositifs.
Pour voir où on va finalement.
Exactement. Et en parallèle de ces mesures, ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'on collecte beaucoup de données sur les caractéristiques des bâtiments, les usagers, les occupations des membres du foyer. Tout ça nous permet ensuite d'expliquer ce qui explique qu'on ait des pollutions supérieures dans certains logements. C'est ce qu'on appelle les déterminants de la qualité de l'air intérieur. On cherche à comprendre si, pour une pollution donnée, ça vient plutôt de l'air extérieur ou du sol, ou bien du bâtiment lui-même, ses matériaux, ou encore des activités des occupants dans leur logement. Donc, il y a beaucoup de questionnaires également, et des questionnaires de santé. On travaille en partenariat avec Santé publique France pour avoir des questions. Les personnes complètent des auto-questionnaires, donc elles complètent elles-mêmes sans l'aide des enquêteurs. Et ensuite, on regarde les associations entre la pollution de l'air intérieur qu'on a mesurée et les événements de santé, type asthme ou allergie, par exemple, irritation des yeux, irritation de la peau des personnes dans ces logements.
Oui, parce que la qualité de l'air, quand elle est affectée, ce n'est pas que au niveau respiratoire, c'est aussi au niveau cutané, où on va retrouver des problématiques. Et ça, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer. Alors, dans cette campagne de qualité de l'air pour les logements, quelques peut-être petits points. Quels ont été les polluants recherchés? Là, j'en ai quelques-unes. On retrouve 84 substances chimiques, le NO2, les aldéhydes, les COV, les COSV, les composés organiques semi-volatiles. On a particules fines ultra-fines, dont on entend encore plus parler. Depuis peu, l'OMS a abaissé les seuils, donc ça va être encore un sujet de plus en plus prégnant à venir. On a le radon, notamment, puisque c'est quand même un gaz à pouvoir cancérigène qui est identifié en France, mais qui est sur beaucoup de régions. Les moisissures notamment, puisque nos chers bâtiments, même récents, visiblement, on voit ces taux augmenter de par peut-être l'enveloppe bien fermée de ce qu'on retrouve. Qu'est-ce qu'on a appris par rapport à tous ces polluants sur les logements finalement?
Oui, vous l'avez bien listé, Nicolas. On regarde toutes les trois familles, en fait, classiquement. Il y a les polluants chimiques, les polluants biologiques, parmi lesquels les moisissures, ou les polluants physiques, les particules. Ce qu'on a appris de notre première campagne logement il y a plus de 15 ans, c'est que la pollution n'est pas homogène. En fait, on est exposés tous différemment. Les cocktails de polluants sont très différents. Et notamment, on a 10% des logements qui sont multipollués. C'est-à-dire que dans 10% des logements français, toutes les substances qu'on a recherchées étaient présentes, étaient déterminées et en concentration élevée par rapport à la moyenne sur le reste du parc de logement. Donc après, quand on regarde plus précisément qu'est-ce qui explique ces multipollutions, on voit que ce sont des logements de fumeurs, on voit que ça peut être des logements en proximité routière, que ce sont des logements où les gens peuvent utiliser des bougies ou de l'encens, des logements également où on ramène des vêtements du pressing. Alors ça, c'est quelque chose qui disparaît, mais en tout cas, jusqu'à il y a très peu de temps, on pouvait emmener ces vêtements au pressing, ils étaient nettoyés avec du tétrachloroéthylène, donc le solvant du nettoyage à sec, et en fait, ça reste, ce solvant reste sur les vêtements et on ramène cette pollution à la maison on peut contaminer son logement. On a vu également que les maisons étaient plus exposées quand elles ont un garage qui communique avec le logement, parce que dans le garage, on y stocke sa voiture, il y a les gaz d'échappement, mais il y a également les vieilles peintures, les vieux produits de bricolage qui ne sont pas forcément dans des emballages hermétiques.
On y stocke notamment quelque chose, moi ça m'a... Je me suis rendu chez une connaissance il y a quelques temps, mais c'était infernal, cette odeur de carburant, d'essence qui arrivait du garage parce que il avait la vie. Cette personne avait tout un tas de bidons d'essence pour sa tondeuse ou entretenir son jardin. Mais en fait, ça communiquait dans la maison. Mais il ne s'en rendait pas très compte peut-être de son exposition permanente, mais c'est vrai que c'était assez marquant. Et on imagine bien les dégâts que ça peut faire derrière, évidemment.
Absolument. Et puis là, il y avait de l'odeur. Alors quand après, quand on est chez soi, on ne perçoit plus forcément les odeurs. Donc cette personne, elle ne sentait sans doute pas, vous l'avez senti. Et puis il y a aussi plein de substances qui n'ont pas d'odeur. Donc ça peut être encore plus... voilà, on n'est pas alerté par une mauvaise odeur. Et pour autant, il peut y avoir des effets sur la santé. Et là, on peut citer le monoxyde de carbone, qui est un gaz qui est mortel. Hein. C'est le seul gaz, le seul polluant de l'air intérieur qui est mortel à court terme, qui est émis par les chaudières qui dysfonctionnent, les chauffe-eau, ou les chauffages d'appoint à pétrole ou à kérosène qui n'ont pas d'extraction à l'extérieur. Donc les fumées sont émises dans la pièce et ce gaz mortel provoque encore plus de 1000 intoxications chaque année en France et une centaine de morts. Donc il n'a pas d'odeur, pas de couleur, mais pour autant il est très toxique, donc il faut être très vigilant avec tout ce qui est combustion.
Ça fait partie des éléments qu'on regarde. Hein. Moi, je le sais bien par rapport au fait que j'ai été pompier, c'est qu'également, quand on se balade dans les bâtiments sensibles, on a nos détecteurs de CO sur nous. Et quand ça commence à sonner dans tous les sens, c'est évidemment que tous les seuils ont été dépassés et qu'il faut sortir vite, finalement, du bâtiment ou mettre nos appareils respiratoires isolants pour y arriver. On se rend bien compte de la dangerosité sur ce plan-là. Alors, on parle là des bâtiments existants, des mesures qui ont été faites. Il y a également le suivi des bâtiments, je dirais, récents, sobres en énergie, hein, qui ont, on l'a vu, il y a des concentrations de moisissures qui ont augmenté. On parlait de l'effet de la bouteille thermos, ça c'est bien connu. Par contre, il y a également apprendre dans un environnement confortable et sain. Et là, on parle de l'éducation. Ça, c'était aussi un travail important de l'OQAI. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ce temps? On passe quasiment 30%, les enfants passent quasiment 30% de leur temps à l'école, dans les lieux clos de l'école. Et automatiquement, comment se comportent ces bâtiments pour la santé de nos enfants?
Oui, comme vous l'indiquiez, c'était une campagne très importante pour nous, puisque les enfants en fait sont plus exposés à la pollution que les adultes. En proportion de leur poids, ils ingèrent plus de polluants ramenés au poids corporel. Et en plus, à la différence de l'adulte, leurs voies respiratoires ne sont pas complètement formées jusqu'à 6 ans. Ils n'ont pas encore un système immunitaire totalement développé, donc ils sont plus vulnérables à plusieurs titres. Donc, c'était très important pour nous d'aller dans ces lieux. Donc, on a tiré au sort dans le fichier des écoles du ministère de l'Éducation nationale et on est allé instrumenter 601 salles de classe, donc pendant une semaine de classe, du lundi matin au vendredi soir. Et on a identifié 4 points d'alerte, en fait, s'agissant des salles de classe. Donc, le premier point, ce sont les particules. Vous évoquiez, Nicolas, en plus, que la valeur de l'Organisation mondiale de la santé a été diminuée en septembre dernier. Déjà, avec la valeur d'avant, la concentration en particules fines dépassait la valeur de l'Organisation mondiale de la santé dans 96% des salles de classe. Là, si on considère la nouvelle valeur de l'OMS, elle est toujours dépassée.
C'est colossal.
Voilà, donc c'est énorme. Alors, on a été surpris parce qu'en fait, dans une salle de classe, les particules, ça vient de la combustion. Donc, la cuisine, le tabagisme, l'encens, les bougies. Dans une salle de classe, il n'y a rien de tout ça. On ne fait pas la cuisine, on ne brûle pas d'encens. Mais la particularité des salles de classe, c'est qu'elles sont toutes les écoles sont à proximité d'une route pour revenir à l'école. Donc, c'est l'impact de la pollution atmosphérique extérieure qui est très forte sur les écoles et les salles de classe. Donc, c'était le premier point d'alerte. Le deuxième point, c'est le plomb. Alors, c'est un vieux polluant qui n'est plus utilisé dans les peintures, hein, qui a été interdit en 1949. Pour autant, dans 15% des écoles en France, on a encore au moins une salle de classe où il y a du plomb dans des peintures qui n'ont jamais été rénovées, qui sont à l'état dégradé, et que les enfants peuvent gratter et ingérer des petits morceaux de plomb. Et le plomb est très toxique, il perturbe le bon développement de l'enfant. Donc 15% des écoles, c'est beaucoup. Troisième point d'alerte, ce sont les composés organiques semi-volatiles, vous en avez parlé tout à l'heure, oui, ce sont les mesures dans les logements. Donc, leur particularité, c'est qu'ils sont dans l'air, on les inhale, mais ils sont aussi sur les surfaces, ils se déposent dans les poussières. Et on sait que les enfants, ils mettent la main à la bouche tout le temps, les petits peuvent marcher à quatre pattes. Donc, les enfants sont beaucoup plus exposés que les adultes à cette famille de polluants. Et on a observé que pour certains polluants de cette famille, donc les phtalates, par exemple, qui sont dans les plastiques,
les hydrocarbures aromatiques,
voilà, sont présents dans 100% des écoles en France. Donc, ça pose question aussi sur les répercussions sur la santé des enfants. Et le quatrième point de vigilance, d'alerte, c'est le confinement de l'air. Donc, on a beaucoup parlé de confinement pendant la pandémie. Là, le confinement de l'air, c'est qu'on l'emprisonne, c'est pas positif. Hein, on empêche l'air de se renouveler. Et donc, on évalue ce confinement de l'air intérieur en mesurant le dioxyde de carbone qu'on émet quand on respire. S'il y a du CO2 dans une classe, c'est qu'il y a des gens, il y a des enfants, des enseignants, et que l'air est mal renouvelé. Donc, s'il y a du dioxyde de carbone, il y a aussi tous les polluants chimiques, les particules qui sont là. Donc, c'est un bon indicateur du renouvellement d'air. Et on a déterminé un indice de confinement. Quand il est égal à 4 ou 5, c'est extrême. C'est qu'il y a une très mauvaise aération, ventilation de la classe. Et cet indice atteint 4 ou 5 dans 40% des écoles en France. Donc là encore, c'est énorme. Alors, on en parlait moins avant la pandémie. Maintenant, les capteurs de mesure du CO2 se sont largement étendus. Mais on avait déjà observé avant la pandémie que c'est une vraie problématique, l'aération et la ventilation dans les écoles.
On entend d'ailleurs parler à l'heure actuelle beaucoup, je crois que ça a été dans le cas du centre de la France, de dire on va mettre des épurateurs dans les salles de classe. Le premier principe serait peut-être déjà d'améliorer cette circulation de l'air dans les salles de classe avant de passer par les épurateurs.
Absolument.
Parce que l'air, il va venir en complément au cas où on retrouve. Là, on parlait sur des émissions précédentes, on parlait de la ventilation. Il y a celle qui existe par extraction, il y a celle par insufflation. Celle par insufflation, on sait que, par exemple qu'au début du process, un peu comme la double flux, il y a un filtre. Donc, ça permet d'améliorer encore cet air, enrichi en meilleur, hein, qu'on va retrouver pour le. Même si on enlève des choses, ça veut dire qu'on a un air plus riche de en termes de qualité pour notre salle de classe. Et peut-être que le travail principal, il est sur ce point-là dans nos salles de classe.
Absolument. L'épuration, c'est vraiment pas la chose à mettre en œuvre tout de suite. Il faut d'abord réduire les sources, avoir des matériaux moins émissifs, utiliser les produits d'entretien de façon parcimonieuse rincer, ne pas les mélanger. Bon, ça vaut pour le logement, ça vaut aussi pour les espaces de travail où il y a du ménage régulièrement. Donc, réduire la source. Deuxièmement, renouveler l'air, donc soit avec un système mécanique qui, en plus, peut filtrer l'air qui est soufflé, donc ça, c'est bien. Soit en ouvrant les fenêtres s'il n'y a pas de système mécanique. Donc, l'épuration, c'est vraiment en dernier recours. Et d'ailleurs, le Haut Conseil de la Santé publique, hein, je sais que vous avez reçu Fabien Skinazi dans l'émission. Fabien Skinazi a beaucoup travaillé pour ce Haut Conseil. Le Haut Conseil recommande de n'utiliser les épurateurs qu'en dernier recours, quand il n'y a pas de fenêtre dans la pièce, quand il n'y a pas de VMC, quand on ne peut pas faire autrement. Parce que les épurateurs peuvent aussi avoir leurs limites selon les technologies qui sont utilisées. Certains peuvent réémettre des polluants dans l'air. Donc, c'est vraiment pas la première chose à faire.
Donc, gardons la chaîne de ces valeurs et de ce travail, de cette qualité de l'air dans le bon sens. Évidemment, on parle beaucoup de bon sens ici, on en parle de plus en plus, même sur d'autres plans, et ça, c'est tant mieux, hein, de revenir à des réflexions, je dirais, saines. Il y a également, c'est la fin de l'émission, il y a également la prise en compte des bureaux, hein, que vous avez mesurés. Et là, plutôt des bonnes surprises dans ces bureaux, vous allez nous le dire pour le mot de la fin, et puis nous dire un petit peu aussi, pour finir, l'OQAI, les perspectives.
Pour les bureaux. Alors les bureaux, oui, la bonne nouvelle. Alors donc on a fait une campagne en même temps que les écoles en 2013 et 2017. La bonne nouvelle, c'est que ce sont des lieux quand même beaucoup moins pollués. Donc on a recherché les particules ultrafines, les composés organiques volatiles. On voit que globalement les concentrations sont beaucoup plus faibles en comparaison des logements ou des écoles. On a 7% de pièces de bureaux qui sont multipolluées. Donc on en avait 10% dans les logements. Pour mémoire, on en parlait tout à l'heure. Beaucoup plus dans les écoles. Donc il y a beaucoup moins de situations de pollution dans les bureaux. Les cas qu'on observe, c'est des bureaux en centre-ville, donc en proximité trafic, avec un impact de la pollution extérieure dans le bureau. Et puis également, quand il y a du ménage intensif avec des produits qui peuvent émettre des composés organiques volatiles, ce sont les cas, les points de vigilance. Et puis, dans les bureaux, oui, autre point de vigilance, les imprimantes photocopieurs doivent être dans des pièces séparées, parce qu'ils peuvent émettre des particules, donc il faut vraiment les isoler pour ne pas avoir son imprimante à côté de son bureau.
Non, d'autant plus des particules qui sont chauffées, donc qui se diluent dans l'air encore plus facilement et qui pénètrent aussi très bien dans nos poumons, puisque ça va être des encres, hein, notamment. Et ça, on sait que ça se tient malheureusement bien à l'intérieur de notre corps. Alors Corinne, pour finir sur l'OQAI, elle sert à mieux connaître finalement les environnements, hein, intérieurs pour mieux sensibiliser, pour informer, pour trouver toutes les actions de correction et toutes les actions de mieux faire. On va souhaiter à l'OQAI encore une très belle année 2022. On va se retrouver et surtout, vous avez d'autres campagnes qui sont prévues ?
On a redémarré une deuxième campagne dans les logements, donc pour mettre à jour l'état de la pollution mesurée il y a plus de 15 ans maintenant, avec deux nouvelles, les mêmes substances qu'il y a 15 ans pour comparer, mais aussi tout un lot de nouvelles substances qui sont apparues dans les produits, enfin, en lien avec les produits. Donc, une grande campagne avec l'utilisation de capteurs connectés, c'est aussi quelque chose qui se développe. Mmh. Donc, on avance en même temps que tous les progrès sur le sujet, donc des capteurs connectés, des technologies plus performantes pour mesurer plus de polluants, comme les pesticides, par exemple, qu'on va regarder dans l'air et dans les poussières. Donc, il y a encore plein de choses à faire et les prochaines années vont être intenses.
Alors, elles vont être intenses, elles vont être toujours en amélioration de cette qualité de l'air. Merci beaucoup, Corinne Mandin du CSTB et aussi référente pour l'OQI, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui, nous le rappelons, a 20 ans, et ça fait 20 ans qu'il travaille pour identifier et donner les actions pour améliorer notre qualité de l'air. Merci beaucoup. On va suivre avec grande attention les prochains rapports de l'OQAI. Et d'ici là, une très belle année encore à vous toutes et tous, chères auditrices, chers auditeurs, pour Element Air, mon cher Nico. À très bientôt. Corinne, merci encore. À bientôt.
Merci beaucoup, Nicolas. Merci, à très bientôt. Très belle année.
Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.